France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, des rassemblements à la mémoire de l'ancien opposant russe Alexeï Navalny, mort il y a un an jour pour jour. Nous irons à Berlin où un hommage débute en ce moment même. Dans ce journal, nous nous intéresserons à ce sommet demain à Paris, sommet sur la sécurité en Europe, alors que les Américains se verraient bien gérer seuls avec la Russie la fin de la guerre en Ukraine. En Israël, nous verrons comment Benjamin Netanyahou et le chef de la diplomatie américaine s'emploient à montrer leur unité pour éradiquer le Hamas et faire partir à l'étranger près de 2 millions de Gazaouis. La politique en France avec le socialiste Olivier Faure qui convoquera un congrès en juin pour définir la future ligne du Parti socialiste. En Corse, une conductrice, une étudiante de 18 ans, a été tuée par balle au volant d'un véhicule qui n'était pas le sien. Le parquet de Bastia envisage une erreur de cible. Le basket, cette nuit, à San Francisco, le All-Star Game de la NBA, avec le français Victor Wembanyama, sélectionné pour la première fois. Et puis le temps de demain, Céline Dacosta, ce sera une journée bien calme pour démarrer la semaine.
Oui, à l'image de ce week-end, avec un soleil qui sera plus généreux sur l'est du pays.
Et vos prévisions complète dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Alexeï Navalny avait donc prédit dans ses mémoires qu'il mourrait dans une prison russe et effectivement, le principal opposant au régime de Vladimir Poutine purgeait une peine de 19 ans d'enfermement quand il est mort il y a un an, jour pour jour. Et ce matin, à Moscou, ses partisans sont venus par centaines dans un froid glacial se recueillir devant sa tombe. Rassemblement également ce soir en Allemagne, où Navalny avait vécu un temps en convalescence. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En direct de l'église du souvenir à Berlin, où un hommage donc débute à l'instant.
Oui, c'est ça. Malgré le froid, malgré la neige, il y a là des centaines d'Allemands et de très nombreux exilés russes qui forment en ce moment une longue file devant cette église de l'ouest de Berlin. Certains sont venus de loin, une famille de la région de Cologne, un couple également d'opposants russes qui a fait 4 heures de route depuis la Pologne pour rendre hommage à celui qu'ils appellent leur héros. La veuve d'Alexeï Navalny qui a promis de poursuivre le combat au lendemain de la mort de son mari est là également. Yulia Navalnaya doit prendre la parole dans quelques minutes pour partager des souvenirs de son mari, pour évoquer son héritage également. Les opposants présents ce soir pour la commémoration expliquent qu'ils n'ont guère d'espoir de connaître la vérité sur les circonstances de la mort de leur figure de proue. Simplement, ils disent être là pour faire vivre la mémoire d'Alexeï Navalny, pour ne pas que son nom soit effacé malgré les persécutions que subissent ses partisans. Ce matin, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a salué la mémoire lui aussi d'Alexeï Navalny, mort parce qu'il s'est battu pour la démocratie et la liberté. Le chancelier, sur la plateforme X, qui a ajouté son courage a fait la différence et va bien au-delà de sa mort.
Sébastien Baer, en direct de Berlin. Sébastien, vous évoquiez la veuve de Navalny, Lulia Navalnaya, qui a effectivement repris le flambeau de l'opposition russe. Eh bien, elle a posté une vidéo ce matin, une vidéo dans laquelle elle appelle ses partisans à poursuivre la lutte pour ce qu'elle appelle une Russie libre et pacifique.
Cette année nous a montré qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. Nous savons exactement pourquoi nous luttons. C'est pour la Russie du futur dont rêvait Alexeï. Une Russie libre, pacifique et belle. Elle est possible. Et nous devons tout faire pour que ce rêve devienne la réalité. C'est non seulement bon et juste, mais cela nous permettra également de résister et de remporter ce combat.
Et quant à la mère d'Alexeï Navalny, elle souhaite que les responsables du meurtre de son fils, elle n'hésite pas à parler de meurtre, que ces meurtriers, dit-elle, soient punis.
France Inter, Éric Delvaux.
C'est peu dire que la gouvernance Trump bouscule, pour ne pas dire heurte, les dirigeants européens, à tel point que l'Europe pourrait même se retrouver exclue de fait des négociations sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Alors comment faire pour que les Européens pèsent sur ces éventuelles négociations? C'est pour en débattre qu'Emmanuel Macron réunira demain après-midi à Paris les principaux dirigeants européens. L'Élysée l'a validé cet après-midi avec les 7 chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, l'Italie, de la Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark. Également la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Une réunion qui s'annonce historique, c'est ce que pense Camille Grand. Il est chercheur au Conseil européen pour les relations internationales, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
On est dans un vrai moment historique. Ce qui se joue maintenant, c'est de savoir si la paix en Europe va se faire entre Russes et Américains seulement, ou est-ce que les Européens auront leur mot à dire dans cette paix. Parce que si on n'est pas à la table des négociations, on est au menu des négociations et les Européens sont simplement invités à payer. Donc on est dans un moment tout à fait décisif. Et il est très important que les Européens soient unis et clairs dans ce moment-là. L'Allemagne est à une semaine de ses élections. Il y a des pays qui sont plus allants pour aller dans le sens des États-Unis et signer une paix un peu à n'importe quel prix. Le président de la République ou la première ministre danoise sont très clairs sur le soutien à l'Ukraine. Donc il y a des nuances, hein, clairement, entre les différents leaders européens. Mais ces nuances, à mon avis, doivent être aplanies pour faire passer un message très clair aux États-Unis qui est « nous sommes prêt à aider ce processus de paix en Ukraine, mais pas n'importe quelle paix et pas à n'importe quel prix, et surtout pas une paix qui mette la sécurité de l'Europe en danger demain. »
Réunion sur la sécurité en Europe, donc demain après-midi à Paris, propos recueillis par Frédéric Saïs. En Israël, mon ami par-ci, mon ami par-là, avec de franches accolades aujourd'hui, entre Benjamin Netanyahou et l'Américain Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine a fait le déplacement pour commencer à définir l'avenir de la bande de Gaza. Une même vision donc entre les deux hommes, notamment pour faire partir les Palestiniens et transformer l'enclave en Riviera, pour reprendre le mot de Donald Trump, le Premier ministre israélien, parfaitement en phase, dit-il, avec les ambitions américaines.
I want to assure everyone who's now listening to us.
Je veux assurer tous ceux qui nous écoutent. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination. Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours dévoiler les détails en public, notamment quand les portes de l'enfer vont s'ouvrir, comme ce sera sûrement le cas si tous nos otages ne sont pas libérés jusqu'au dernier.
Et sur le même ton, vous allez l'entendre, le chef de la diplomatie US a redit que les Américains soutiendraient Israël dans sa volonté d'éradiquer le Hamas et donc déplacer, s'il le faut, 2 millions de Gazaouis.
Le président s'est montré aussi très résolu sur sa vision de l'avenir de Gaza. Pas les mêmes idées fatiguées du passé, mais quelque chose de nouveau, d'audacieux. Quelque chose qui, franchement, a demandé du courage et une certaine vision pour être défini. Cela a pu choquer et surprendre certains, mais on ne peut pas continuer un cycle où l'on se répète incessamment pour arriver au même point. Le président a été très clair. Le Hamas ne peut pas continuer en tant que force militaire ou gouvernementale. Une paix ne serait pas possible. Il doit être éliminé, il doit être éradiqué.
Et après son étape en Israël, Marco Rubio se rendra en Arabie Saoudite dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite dont les États-Unis souhaitent un rapprochement avec Israël. Un mot du Liban. Dans l'est du pays, des avions israéliens ont mené aujourd'hui 3 frappes dans la vallée de la Beka, des cibles de renseignement du Hezbollah, précise ce soir Israël. L'actualité politique du week-end en France avec Jean-Luc Mélenchon qui a officialisé aujourd'hui la rupture consommée donc entre les Insoumis et le Parti Socialiste, le PS, qui tiendra congrès le 7 juin prochain. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, l'a annoncé aujourd'hui. Il sera d'ailleurs candidat à sa propre succession. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Le PS donc est toujours ses luttes intestines entre le courant hollandiste et ceux qui préfèrent s'en tenir plus à gauche, à une politique plus à gauche. Eh bien le prochain congrès tranchera pour donner la nouvelle ligne du parti.
Oui, et dans les gauchistes, hein, même si ça ferait hurler dans le landerneau de ceux qui se réclament de la vraie gauche, dans les gauchistes socialistes, il y a le patron Olivier Faure. Alors la récente rupture consécutive au refus du PS de voter la censure insoumise a toutefois remis Olivier Faure au centre du jeu. Désormais, ce ne sont plus seulement les sociodémocrates allergiques à LFI qui le menacent, mais le retour de François Hollande, l'ancien président de la République, dont tout le monde sait qu'il n'a renoncé à rien, va peser de tout son poids pour reprendre l'ascendant sur un parti qui devra le mettre en orbite vers la présidentielle de 2027.
Et Olivier Faure qui encourage François Bayrou à démissionner s'il s'avère qu'il a menti dans l'affaire Betaram.
Alors Olivier Faure, d'ordinaire si prudent, n'a pas mâché ses mots sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3.
François Bayrou a menti à plusieurs reprises devant l'Assemblée. Il nous a dit qu'il n'avait jamais été au courant et pourtant, depuis, il nous explique qu'il avait lui-même demandé un rapport en 96. S'il a participé, d'une manière ou d'une autre, à la loi du silence pour protéger l'institution de Betaram, alors, en conscience, oui, il doit démissionner.
Alors il faut aussi avoir en tête dans cette actualité politique cette motion de censure que le PS va déposer cette semaine, considérant que le Premier ministre a cédé à l'extrême droite en reprenant le terme de submersion migratoire. Accusé d'avoir été pleutre sur le budget, Olivier Faure entend démontrer qu'il ne lâche rien quand l'essentiel est en jeu, en l'occurrence les valeurs.
Laurence Perron en direct, service politique de France Inter. En Corse, y a-t-il eu méprise dans une tuerie à Ponte Leccia? Une femme de 18 ans, une étudiante, a été tuée par balle hier soir, abattue au volant d'un véhicule qui n'était pas le sien. Le parquet de Bastia juge fort probable une erreur de cible et l'enquête est confiée à la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Camille Parcy.
Une saisine de la GIRS de Marseille qui vient confirmer la piste d'un règlement de compte lié au crime organisé. Quelques heures à peine après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Bastia pour homicide volontaire en bande organisée. Ce samedi soir, aux alentours de 22h, la jeune fille de 19 ans quittait une résidence sur le village de Ponte Leccia. Elle était seule au volant de la voiture, habituellement conduite par son compagnon, qui pourrait être la personne réellement visée, lorsqu'elle est tombée dans un guet-apens, blessée mortellement par balle. Quelques heures après le drame, vive émotion et condamnation unanime de la classe politique insulaire et de l'État. Le président de l'exécutif Gilles Siméon y appelle à la nécessité d'exprimer collectivement notre refus des dérives mafieuses. Dans un communiqué commun, les préfets de Corse et de Haute-Corse dénoncent, eux, une violence impardonnable. Les deux collectifs anti-mafia de Lille appellent à une grande manifestation samedi prochain à Ajaccio. Il s'agit du troisième homicide perpétré sur Lille depuis le début de l'année.
Camille Parcy, ici RCFM. Ils seront demain trois hommes à comparaître devant la cour d'assises de Paris. Trois hommes dont l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, devra répondre de l'enlèvement, la torture et la séquestration d'otages occidentaux, dont quatre journalistes français, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Édouard Elias et Didier François. Un procès qui s'annonce particulièrement douloureux et qui vient clôturer les audiences sur la violence de l'État islamique contre les pays occidentaux et la France en particulier, Charlotte Piret.
C'est le procès qui vient boucler la boucle judiciaire des atrocités commises par l'État islamique contre des ressortissants occidentaux. Et pour cette dernière audience concernant cette période, on revient aux racines du mal, au sein de la cellule de l'État islamique qui peu après pensera et organisera les attentats sanglants de 2015 et 2016. Mais en 2013, lorsque les quatre journalistes français sont pris en otage, la stratégie du groupe terroriste vise à la fois à décourager tout reportage sur leurs actions, ainsi que disposer d'une monnaie d'échange vis-à-vis d'États considérés comme ennemis. Au total, 25 occidentaux, journalistes ou humanitaires seront ainsi séquestrés à cette période. Les otages français Didier François, Nicolas Hénin, Pierre Torres et Édouard Elias passent plus de 9 mois dans les geôles de l'État islamique, violentés, déplacés d'un lieu de détention à un autre avant d'être finalement libérés. Mais ce n'est pas le cas d'autres de leurs compagnons britanniques et américains pour la plupart, comme James Foley, dont la décapitation filmée et mise en scène avait glacé le monde. 9 otages étrangers n'ont ainsi jamais été libérés. Certaines de leurs familles seront également parties civiles à ce procès.
Les mondiaux de biathlon, c'est en Suisse, à Lenzerheide, et le sacre cet après-midi du Norvégien Johannes Bø, devenu champion du monde de poursuite. C'est sa 12e médaille d'or individuelle. Il devient le biathlète le plus titré aux mondiaux. Le Français Éric Perrault est parvenu à remonter de la 15e à la 3e place grâce à un 19 sur 20 au tir carabine. On va s'intéresser ce soir à celui qui a ravi la médaille d'argent, l'Américain Campbell Wright. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Éric.
En direct de Suisse, voilà un athlète né en Nouvelle-Zélande avec un look et un parcours atypique.
Ah oui, on ne peut pas le rater sur la piste, c'est sûr, avec sa coupe mulet qui dépasse de son bandeau aux couleurs des États-Unis. 22 ans à peine et l'un des nouveaux visages donc du biathlon mondial. Hier après-midi, sous le soleil généreux de Lenzerheide, Campbell Wright a offert à son pays une première médaille dans des mondiaux. Depuis 2017, il a récidivé aujourd'hui avec la même maîtrise, 2 podiums et l'explosion de joie dans le camp américain, un peu habitué, c'est vrai, aux exploits dans ce sport. Campbell Wright a pourtant un parcours très atypique. Vous l'avez rappelé, il est né en Nouvelle-Zélande, un pays, vous me l'accorderez, aux antipodes du biathlon. Très compliqué pour lui quand il était jeune, raconte-t-il, de regarder cette discipline à la télévision. Alors quand il a voulu en faire son sport, il a opté pour la nationalité américaine afin de bénéficier de meilleures structures d'entraînement. Un choix donc payant pour Campbell Wright, qui après des débuts timides sur le circuit éclate enfin au grand jour. La preuve, Eric, que l'on peut venir de très très loin et briller sur les pistes d'Europe.
Jérôme Val, en direct des mondiaux de biathlon en Suisse. Et pour les fans de basket, ça va se passer la nuit prochaine à San Francisco, le All-Star Game de la NBA, le match des étoiles qui va réunir les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine. Un Français parmi eux, Victor Wembanyama, sélectionné pour la première fois à seulement 21 ans. Wembanyama, la nuit prochaine, la tête dans les étoiles, donc Xavier Monferrand.
Certains attendent cette distinction pendant des années et beaucoup n'ont jamais l'honneur de disputer ce match des étoiles. Victor Wembanyama, lui, va entrer dans l'histoire après seulement une saison et demie en NBA.
Oui, c'est vraiment une étape importante, mais non, ce n'est pas trop tôt.
Ce n'est pas une question d'âge pour Victor Wembanyama. Le Français impressionne même ceux qui en ont vu d'autres, comme Rick Carlisle, l'un des entraîneurs les plus capés de la NBA.
Victor's a great player.
Victor est un super joueur. La France doit être vraiment très fière de l'avoir. Il est unique en son genre. Je ne sais pas combien de générations il faudra pour revoir un tel joueur. Ce qu'il fait, c'est à couper les souffles.
Un tel phénomène, il faut en prendre soin, assure Chris Paul, son coéquipier chez les Spurs et meneur vedette de la NBA, presque jaloux de nous, les Français.
Les gars, vous avez de la chance de pouvoir suivre Victor et ça va durer un moment, donc non seulement veillez sur lui, mais chérissez-le.
Et ce n'est qu'un début pour Victor Wembanyama qui peut espérer un jour dépasser la légende du basket français, Tony Parker, 6 fois All-Star.
Et ça se passera dans le milieu de la nuit prochaine. Merci Xavier Monfer. À Londres, la cérémonie des BAFTA va débuter dans moins d'une heure. Les récompenses britanniques du cinéma international, un avant-goût des Oscars avec 15 jours d'avance. Parmi les films favoris ce soir, Conclave ou bien The Brutalist ou encore le film français Emilia Pérez de Jacques Audiard. 11 nominations, même si ce nombre de récompenses pourrait pâtir de la polémique provoquée par son actrice Carole Sofia Gascon, à qui l'on reproche d'anciens tweets jugés racistes et islamophobes. Mais au-delà de la polémique, ce film de Jacques Audiard a bien d'autres arguments pour rafler la mise. Et c'est ce que dit notre spécialiste cinéma sur France Inter, Laurent Delmas.
Si elle n'est pas sacrée elle-même, le film par contre peut l'être à bien des égards. Ses autres actrices, son réalisateur, c'est sa grande partition musicale de Camille. Voilà, il y a beaucoup d'autres façons effectivement de mettre en avant le film. Et effectivement, c'est aussi évidemment des questionnements et une préfiguration comme chaque année des Oscars, puisque les 15 jours qui séparent les deux cérémonies font qu'elles sont en général assez proches quant à leurs résultats. Le film a intégralement ses chances. Ce qui serait profondément quand même injuste, c'est que les propos de l'actrice, finalement, rejaillissent en négatif sur la bande originale du film, sa réalisation, ses autres actrices, son scénario, etc. Ça serait profondément injuste parce que, pour le coup, il n'y a aucun rapport entre les deux.
Laurent Delmas, on aura tout vu sur Inter chaque week-end. Et puis après le grand écran de cinéma, la télé ou même l'ordinateur pour ceux qui aiment les jeux vidéo et plus particulièrement ce soir, les vieilles consoles de jeux vidéo. Je vous emmène à un rendez-vous de nostalgie qui se sont réunis ce week-end sur l'île de Ré, à Loie précisément. Un événement autour du jeu vidéo rétro, organisé par une association de jeunes locaux qui tiennent dans leurs mains de vieilles manettes pour d'anciens jeux et qui ont peut-être d'ailleurs bercé votre enfance. Ici La Rochelle, reportage Sofia Berada.
Un homme d'une trentaine d'années martyrise les boutons de sa manette de jeu.
Alors moi c'est Kevin.
Et vous êtes en train de jouer à...
C'est un jeu de voiture. Le but c'est de tout casser et de finir premier.
Ce jeu c'était son préféré quand il était petit.
Quand il faisait pas beau, je passais mes week-ends là-dessus. Et fallait souffler dans les disquettes parce qu'elles fonctionnaient plus. Elle avait pris la poussière.
Sur la console d'à côté, une partie d'un autre jeu mythique se joue entre une mère et son fils.
On joue à Sonic.
C'est un jeu auquel je jouais quand j'étais enfant. Et donc maintenant, voilà, je montre à mon fils. Il faut diriger son personnage et taper les méchants.
Ici, c'est sauter. En bas, c'est pour se mettre en boule.
Il n'y a plus qu'à s'entraîner maintenant.
Au début, c'est un peu dur, mais après, je commence à m'habituer.
T'imagines ta maman, quand elle était petite, en train de jouer à ça ?
Bah non, pas trop.
Tu m'as dit, je vais peut-être aller faire un tour dans le grenier. Pour voir si je retrouverai pas une petite console comme ça qui traîne.
En tout, il y a une quinzaine de jeux, tous prêtés par Bernard.
Je suis collectionneur.
Et amoureux des jeux vidéo des années 80 et 90.
Bah, c'était l'époque où on jouait encore le canapé, la console, les chips, voilà. Maintenant, ça se fait quasiment plus parce que tout le monde joue en ligne. Chacun chez soi, et cette convivialité, elle s'est un peu perdue, quoi.
Il contribue à faire renaître des moments de partage en prêtant chaque année, depuis 3 ans, ses reliques électroniques à l'association des copains Rété.
Avant la météo, dans un instant, je vous parlais à 13h d'un célèbre bronze de Camille Claudel, retrouvé par hasard lors d'un inventaire dans un appartement. Et bien cet après-midi, lors de sa vente aux enchères à Orléans, cette version de l'âge mûr a largement dépassé l'estimation, adjugée finalement 3,1 millions d'euros pour ce bronze qui est donc resté caché sous un drap dans un appartement parisien inhabité depuis plus de 15 ans au pied de la Tour Eiffel. Et bien voilà le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec encore du soleil demain lundi.
Oui, et il sera plus présent, plus franc en tout cas tout au long de la journée, de la Normandie vers les Hauts-de-France, sur l'Île-de-France, le Grand Est, mais aussi de la région Rhône-Alpes vers la région PACA et le Languedoc-Roussillon, sans oublier les Pyrénées, partout ailleurs. Et on l'a compris, ce sera surtout à l'ouest et au centre, on aura davantage de nuages. Les bancs de brouillard seront nombreux le matin et auront du mal à se dissiper. Des éclaircies devraient quand même réussir à se frayer un chemin dans l'après-midi sur l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. Quant à la Corse, ce sera aussi un ciel partagé entre nuages et éclaircies.
Et pour les températures, pas beaucoup de changements. Hein.
Non, toujours très frais au lever du jour avec une moyenne de moins 3 à 0 degrés de la Normandie vers le Grand Est, entre 6 et 10 degrés sur le reste du pays. Pour les maximales, on ira de 5 à 10 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 pour la moitié sud.
Merci Céline Dacosta.